question dont la réponse nous incitera à lire davantage les Saintes Écritures. Comment est-ce qu'on peut interpréter la Bible avec exactitude? La parole de Dieu va répondre elle-même à cette question aujourd'hui à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, la parole de Dieu va nous enseigner des choses qui vont sûrement nous donner le goût d'étudier nous-mêmes de plus en plus ce livre merveilleux de Dieu aujourd'hui. Je pense que vous serez d'accord avec moi après avoir entendu les questions que voici. Les rebelles seront-ils jugés par Dieu un jour? Quand on parle de l'enfer comme étant un étang ardent de feu et de soufre, est-ce qu'on doit interpréter ça littéralement? Qu'est-ce qui va se passer pendant le millénium? Quelles sont les différentes écoles de pensée concernant le millénium? Comment est-ce qu'on doit s'y prendre pour interpréter la Bible avec exactitude? Est-ce qu'on doit prendre littéralement le fait que le millénium va durer 1000 ans? Est-il possible de mettre une date précise sur l'enlèvement de l'Église? Restez avec nous. Le pasteur Régent Joly est sur le point de répondre à chacune de nos questions par les écrits de Dieu, par la Bible. Mais premièrement, demandons au Seigneur de disposer nos cœurs à bien recevoir sa parole. Prions. Oui, Seigneur, on est conscient que c'est ta parole qu'on va entendre. Ce que tu as voulu nous enseigner, alors dispose nos cœurs à bien la recevoir. Et non seulement à la recevoir, mais à la méditer et à la mettre en pratique pour ta gloire. Nous t'écoutons, Seigneur. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. Nous terminons aujourd'hui l'étude du chapitre 19 de l'Apocalypse. Chers amis, débutons notre lecture. Apocalypse, chapitre 19, versets 13 à 16. « Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. » Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Le vêtement du roi des rois est trempé de sang, et ce n'est pas le sien, c'est celui des nations, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Cette image nous renvoie bien sûr sur la vision du prophète Ésaïe, chapitre 63, versets 1 à 6, que nous avons cité précédemment en rapport avec l'Apocalypse. De toute évidence, ces événements ne se rapportent pas à la première venue passée du Christ, mais de sa deuxième venue, dans un avenir, par ailleurs décrit dans notre chapitre. « Il les pètera avec une verge de fer » fait référence au psaume 2, versets 6 à 9. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. La colère furieuse du retour de notre Seigneur fait contraste avec sa première venue tout en douceur. Mais, je le répète, l'humanité a déjà eu 2000 ans pour se repentir de ses mauvaises voies, et nul ne sait jusqu'à quand la patience de Dieu se prolongera. Les armées qui sont dans le ciel, précise le texte, sont évidemment les légions d'anges sous ses ordres. La guerre d'Armageddon. Cette guerre tire à sa fin. Nous assistons ici à la dernière bataille. Apocalypse 19, versets 17 et 18. « Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Ce passage est sans doute un des plus dégoûtants des Écritures. Le Seigneur l'a placé à la fin de sa parole afin de nous rappeler à quel point les œuvres de la chair sont révoltantes pour lui. Dieu détruira la chair de ceux qui vivent selon elle. Nous sommes invités à regarder la fin de la bataille d'Armageddon. L'ange donne l'ordre aux oiseaux charognards de se rassembler afin de se repaître de la chair des rois, des généraux, des puissants, des cavaliers, des hommes libres et des esclaves, petits et grands. Même leurs chevaux n'échapperont pas à la curée. Rappelons-nous toujours que les rebelles seront jugés par Dieu un jour. Dieu est juste dans sa sentence, et celle-ci nous révèle à quel point le cœur de l'homme est tordu. L'enfer ouvert. À ce moment, l'enfer ouvre ses portes afin de recevoir les impies. Apocalypse 19, versets 19 à 21. Et je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Voilà une autre terrifiante description. La première bête, ex-dictateur du monde, et la deuxième bête, ex-faux prophète, défient Dieu jusqu'à la toute fin. Ils ont osé faire la guerre au Fils de Dieu. Comme le dit le psaume 2, verset 4, « Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux et de la futilité de leurs efforts. Il est presque ridicule de penser qu'une telle rébellion de l'homme envers Dieu puisse un jour exister quand le Seigneur reviendra dans toute sa gloire. Tant qu'ils pensent être confrontés à un Juif crucifié, les hommes peuvent toujours se penser forts. Mais lorsqu'ils s'opposent au Seigneur quand ils le voient revenir dans sa gloire, c'est de la pure folie. L'issue du combat est prévisible. Les deux ennemis rebelles, les deux bêtes, ont le douteux privilège d'inaugurer l'ouverture de l'enfer. Même Satan n'y est pas encore. Une autre question se pose ici. Cet étang ardent de feu et de soufre doit-il être interprété littéralement? J'aimerais d'abord vous faire une suggestion. Vous aurez l'occasion d'y réfléchir, car nous reviendrons sur ce sujet au cours du prochain chapitre. Si cette image de l'enfer ne peut pas être prise au sens littéral, c'est parce que la réalité est encore pire que sa représentation. Un étang ardent de feu et de soufre n'est sûrement pas un endroit agréable à vivre, et surtout pas pour l'éternité. Mais il est possible que le langage humain soit incapable de traduire toute l'horreur de ce lieu maudit. Qu'en est-il de l'épée qui sortait de la bouche du cavalier? Doit-elle être interprétée au sens littéral? À vrai dire, je serais prêt à l'interpréter au sens littéral si la Bible ne spécifiait pas à maintes reprises que la parole de Dieu est semblable à une épée. Premièrement, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Deuxièmement, Éphésiens chapitre 6, verset 17, « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. » Et finalement, le prophète Isaïe, chapitre 11, verset 4, « Mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. » Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La parole de Dieu est comparée à une épée dans les deux premiers passages, et à une verge avec laquelle il frappe la terre dans le dernier. L'épée qui sort de la bouche de Jésus-Christ est donc sa parole. Par cette parole, il a créé l'univers, et par cette parole, il peut sauver votre vie, si ce n'est pas déjà fait. De la même manière, cette parole fera mourir le méchant à la fin de ce temps. Le millénium. Nous commençons maintenant l'étude du chapitre 20. Le thème principal de ce chapitre est le millénium, en relation avec Jésus-Christ, Satan, l'humanité, les élus de la grande tribulation, les résurrections, la terre et le jugement des impies. Par le passé, beaucoup d'hommes ont pensé que le chapitre 20 de l'Apocalypse n'était pas un passage important de la Bible. Après tout, le millénium, cette période de 1000 ans, est mentionnée seulement ici dans les Écritures. En conséquence, ils ont, à toute fin pratique, relégué ce chapitre sur la tablette d'en haut. Je considère cela malheureux. Il est vrai que le millénium est mentionné seulement dans ce chapitre, mais puisque notre but est d'étudier toute la Bible, nous traiterons de ce chapitre comme nous l'avons fait avec les autres. Premièrement, le mot « millénium » vient d'un mot latin qui signifie « mille ». Le millénium, un espace de temps qui dure 1000 ans. Dans ce chapitre, nous rencontrons plusieurs références à un règne de Jésus-Christ qui durera 1000 ans. C'est le millénium. Les trois interprétations du millénium. Le chapitre est surtout interprété de trois manières différentes selon les écoles de pensée sur les derniers temps. Le postmillénarisme assumait que Jésus-Christ reviendrait à la fin d'une période de 1000 ans. L'homme amènerait le royaume de Dieu sur la terre par la prédication de son évangile. Cette perspective, très optimiste, a connu une certaine popularité au début du 20e siècle. À ce moment, il semblait possible que le monde entier se tourne vers le Seigneur Jésus-Christ et que tous les peuples se convertissent en masse. Cet optimisme général dans les pays occidentaux ne prévalait pas seulement à l'intérieur de l'Église. Beaucoup de gens, à l'extérieur de l'Église, croyaient que la science et les découvertes technologiques allaient immanquablement conduire l'humanité vers un monde utopique. Pendant la première moitié du 20e siècle, plusieurs événements majeurs se sont chargés de détruire complètement cet idéal humaniste. Parmi eux, on trouve deux guerres mondiales, une dépression économique à l'échelle planétaire et la course aux armements avec sa perspective de l'annihilation complète de l'humanité en seulement quelques heures en utilisant l'arme nucléaire. Au cours des dernières décennies, le deuxième système d'interprétation, l'amillénarisme, a largement supplanté le postmillénarisme. L'addition du préfixe privatif « a » nie tout simplement l'existence d'un millénium futur. On peut trouver deux points positifs dans l'amillénarisme. Premièrement, le faux optimisme du postmillénarisme est disparu. Deuxièmement, il accorde beaucoup d'importance au retour futur de Jésus-Christ. Sa principale faiblesse est de spiritualiser le règne de 1000 ans de Jésus-Christ. En fait, l'amillénariste spiritualise le livre de l'Apocalypse dans son ensemble. Il cherche à faire cadrer le millénium dans l'âge actuel. L'interprétation de B.B. Warfield est que le millénium se déroule présentement dans les cieux pendant que la tribulation se déroule sur la terre. Ma position est celle-ci. Le millénium se déroule dans les cieux, mais il n'y dure pas seulement 1000 ans. Il dure d'éternité en éternité. La plupart des amillénaristes croient que nous vivons actuellement le millénium. Selon eux, tous les événements décrits dans le livre de l'Apocalypse font partie de notre passé. Si vous avez suivi l'étude de ce livre, vous comprendrez pourquoi je ne vois pas comment certains événements peuvent faire partie de notre histoire. Le troisième système d'interprétation, le prémillénarisme, interprète littéralement ce chapitre, tout comme le reste de l'Apocalypse. Les seules restrictions à cette règle générale sont les endroits où l'auteur spécifie que les figures employées sont des symboles, ou alors que d'autres livres de la Bible indiquent clairement que les figures employées dans ce livre sont des symboles. Prenons un exemple récent. Plus tôt dans cette émission, nous avons vu, au chapitre 19, versets 15 et 21, que les ennemis de Jésus-Christ ont été tués par l'épée qui lui sortait de la bouche. Doit-on comprendre qu'une véritable épée sortait de sa bouche? En s'appuyant seulement sur ce passage, on serait porté à le croire. Par contre, une connaissance générale de la Bible renverse cette interprétation littérale. Entre autres, nous trouvons cette exhortation de l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 6, verset 17. « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. » Dans ce passage, l'épée est clairement un symbole de la parole de Dieu. Nous pouvons donc être assurés que l'apôtre Jean utilise aussi ce symbole, même si lui-même n'indique pas clairement qu'il s'agit d'un symbole. C'est pourquoi il est important de connaître la Bible dans son ensemble, si nous voulons l'interpréter avec exactitude. Il est trop facile de tirer un verset ou un passage hors de son contexte biblique et de lui faire dire n'importe quoi. Par contre, pour accepter l'interprétation symbolique, nous devons avoir de bonnes raisons de le faire. Et ces raisons doivent se trouver dans la Bible. Car la Bible s'interprète elle-même. On ne spiritualise pas un texte biblique pour le plaisir de la chose, sur n'importe quelle base. Malheureusement, ce système d'interprétation est aujourd'hui trop courant et largement accepté, même dans nos églises. Or, l'interprétation prémillénariste traite les 1000 ans comme une période de temps littéral qui dure 1000 ans. Et Jésus-Christ vient au début du millénium, car le chapitre 20 indique clairement qu'il doit venir avant le millénium. Une période de 1000 ans. Dans les 7 premiers versets de notre chapitre, nous verrons que l'expression 1000 ans est employée 6 fois. Si l'apôtre Jean prend la peine de se répéter aussi souvent, est-il déraisonnable de penser qu'il désire être interprété au pied de la lettre? Je ne le crois pas. Pendant les premiers siècles de l'Église, l'interprétation littérale de cette période ne faisait aucun doute. Ceux qui la contestaient étaient considérés hérétiques et dans l'erreur. Plus tard, on a commencé à enseigner que les 1000 ans seraient inaugurés par l'Église. Celle-ci produirait un monde parfait. Lorsque Jésus reviendrait, il trouverait un monde parfait pour l'accueillir dans la joie. Comme nous l'avons déjà vu, cette description du monde au retour de Jésus-Christ n'est pas du tout conforme au récit contenu dans la Bible et plus particulièrement dans le livre de l'Apocalypse. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ reviendra, il reviendra pour juger un monde dans un état de corruption et de rébellion tel que jamais vu auparavant. Il reviendra pour faire la guerre à une humanité qu'il a rejetée dans son ensemble. Il n'y a pas si longtemps, des hommes croyaient vraiment que l'Église allait être capable de construire le royaume de Dieu sur la terre. Écoutez ce commentaire de Justin A. Smith, publié en 1883. Mais d'autre part, quelle énorme puissance se trouve entre les mains de la chrétienté lorsque tout est dit? Est-il possible que cette heureuse puissance qui s'étend si rapidement au monde entier puisse rétrécir jusqu'au triste état apparemment prédit par certains prémillénaristes? Voyez-vous, en 1883, les prémillénaristes se faisaient traiter d'incurables pessimistes. Ils prédisaient que le monde irait de mal en pis et que l'apostasie s'emparerait de l'Église. Ils ne s'opposaient pas à l'optimisme ambiant pour le plaisir de la chose. Ils désiraient simplement présenter le message de la parole de Dieu telle que décrite dans la Bible. Mais M. Smith n'était pas d'accord. Laissons-lui encore la parole. On a déjà dit que, dans 25 ans, si le rythme actuel de progression se maintient, l'Inde deviendra aussi christianisée que la Grande-Bretagne l'est aujourd'hui. On trouvera 30 millions de chrétiens en Chine et autant de chrétiens au Japon qu'on en trouve actuellement en Amérique. On nous dit que les vieux systèmes sont sapés par l'influence du christianisme. Bientôt, le jour pourrait venir où ces systèmes s'écrouleront à leur base sous les assauts vigoureux de la foi chrétienne. En attendant, toutes les armes forgées contre la chrétienté se brisent dans les mains qui les tiennent. Déjà, la main droite de Dieu lui donne la victoire. Aujourd'hui, un tel discours triomphaliste paraît ridicule. L'Église, la soi-disant main droite de Dieu, s'est retournée contre lui en laissant entrer les enseignants apostates dans ses rangs. Cela aussi est prédit au début du livre de l'Apocalypse. Les chrétiens parlaient avec bravoure et avec un brin de prétention, mais actuellement, ils ne peuvent plus se permettre ce luxe. Un autre livre, « Le problème du mal », enseigne un peu la même chose. Je vous en fais la lecture, du moins de quelques extraits. La civilisation d'Europe, ou, pour l'appeler de son véritable nom d'origine, la civilisation chrétienne, s'est visiblement lancée à la conquête du monde. Son triomphe est seulement une question de temps. Personne n'en doute. Je ne sais pas si personne n'en doutait à cette époque, mais une chose demeure certaine. Beaucoup en doutent aujourd'hui. La soi-disant civilisation européenne, ou civilisation chrétienne, se trouve dans sa phase de déclin. Un domaine d'étude exigeant. Ces hommes cherchaient à diminuer l'importance du chapitre 20 de l'Apocalypse. Je considère B.B. Warfield, un des meilleurs enseignants du XXe siècle, et j'ai été formé sous son système. Et pourtant, il affirme qu'il n'existe aucune référence à un millénium terrestre, sauf dans une partie obscure du 20e chapitre de l'Apocalypse. Il ne tient aucun compte des versets de l'Ancien Testament où Dieu conclut une alliance avec son peuple en disant qu'un jour, il établirait son royaume sur la terre par un descendant de la lignée de David. Il y a plusieurs années, M. Roth a dit « Notre clé n'ouvre rien. Nous avons perdu la bonne clé. Et si nous ne la retrouvons pas, notre exposition de la Bible ne pourra jamais tenir. Le système des idées bibliques n'est pas du tout celui de notre école. » Plusieurs théologiens de haut calibre admettent ne jamais avoir étudié les prophéties d'une manière approfondie. Le regretté Charles Hodge, qui a écrit 2 volumes encyclopédiques sur la théologie, admettait franchement que les prophéties des derniers temps n'étaient pas de son ressort. Écoutons-le. Le sujet ne peut pas être discuté adéquatement sans effectuer un survol de tous les enseignements prophétiques des Écritures, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Cette tâche ne peut pas être accomplie d'une manière satisfaisante par une personne qui n'a pas fait de ses études prophétiques sa spécialité. L'auteur, sachant qu'il ne détient pas de telles qualifications pour ce travail, se propose de s'en tenir, dans une large mesure, à un survol historique des différents systèmes d'interprétation prophétique reliés à la Bible. La situation a bien changé depuis. Beaucoup de gens s'intéressent aux prophéties, mais j'aimerais voir plus d'hommes possédant l'honnêteté d'avouer, comme Charles Hodge, qu'ils n'ont pas étudié le sujet comme ils l'auraient voulu. Malheureusement. Beaucoup de théologiens s'aventurent sur le terrain des interprétations prophétiques avant de s'y être adéquatement préparés. Ce sujet est d'une importance cruciale, mais il exige beaucoup d'études. Je ne prétends pas être particulièrement qualifié pour accomplir ce travail, même si je possède une assez bonne connaissance générale de la Bible. Trop de gens émettent des hypothèses sur la date de l'accomplissement des prophéties sans avoir même une connaissance rudimentaire des Saintes Écritures. Pour ma part, je crois qu'il est impossible de mettre une date précise sur l'enlèvement de l'Église en se fiant exclusivement aux indices bibliques. Cela pourrait être pour demain. Cela pourrait ne pas être pour demain. Nous pouvons reconnaître que beaucoup d'éléments nécessaires au déclenchement de la grande tribulation semblent se mettre en place à l'heure actuelle. Mais nous ne pouvons rien affirmer avec certitude. Nous ne connaissons pas la volonté de Dieu pour l'avenir. Tout ce que nous savons, c'est que le monde actuel semble être en bonne position pour l'enlèvement de l'Église et le début de la grande tribulation. Voilà ce que la Bible annonce au sujet de cette humanité. Mais, toi qui es à l'écoute, tu peux éviter le pire en te réfugiant par la foi en Jésus. Prochaine émission, Apocalypse, chapitre 20, versets 1 à 6. Bonne lecture.
Merci, Réjean. Tu as mentionné aujourd'hui l'importance de connaître la Bible dans son ensemble, si on veut l'interpréter avec exactitude, et qu'il est trop facile de tirer un verset ou un passage hors de son contexte biblique et de lui faire dire n'importe quoi. Mes amis, je suis vraiment reconnaissante envers le Seigneur pour cette mise en garde. Réjean nous a démontré plusieurs écoles de pensée au sujet du millénium aujourd'hui, et j'ai trouvé ça bien intéressant, mais en même temps, ce que je réalise, c'est que pour moi, quand je vois toutes ces différentes façons de voir le millénium et d'autres époques prédites dans la Bible, j'aime bien apprendre ce qu'on a découvert. Mais ce qui m'importe réellement quand je médite la parole de Dieu, c'est tout simplement d'apprendre à mieux connaître ce Dieu merveilleux qui, lui, sait exactement le jour et l'heure de chaque événement qui se produira sur cette terre. Et je suis aussi reconnaissante envers Dieu pour la certitude qu'il a mise dans mon cœur du fait que j'ai reçu le don gratuit de la vie éternelle le jour où j'ai accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, il y a déjà plus de 30 ans. Alors, mes amis, puisque Jésus a dit « Celui qui croit en moi a la vie éternelle », je le crois, je le prends au mot. J'ai la vie éternelle puisque j'ai placé ma confiance en Jésus seul pour ce don gratuit. Et puisque Paul et Silas ont dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé », eh bien, je le crois, puisque ceci est écrit dans la Bible, dans la parole de Dieu. Je suis donc sauvé et je ne pourrai pas en douter. Et puisque Paul a dit dans le 3e chapitre de l'Épître aux Romains, au verset 23, que tous ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu, eh bien, je le crois. C'est pourquoi je me suis repenti en 1977. J'ai changé de direction à l'égard du péché, j'ai fait un 180 degrés et maintenant je marche dans la direction opposée. Mais je marche justement dans celle qui mène au ciel, où je vais passer l'éternité avec mon Dieu, celui qui m'a créé, celui qui m'a fait naître de nouveau, celui qui va m'accueillir au ciel pour l'éternité, celui qui essuiera toute larme de mes yeux. Et toi, mon ami, prends-tu Dieu au mot quand il te dit quelque chose par sa parole, par les écrits de la Bible? Il ne voulait pas qu'on soit dans l'ignorance au sujet de l'éternité, au sujet de notre sécurité éternelle. Il nous a donné le moyen, le seul et unique moyen de l'avoir. Et ce moyen, c'est Jésus lui-même qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors, mon ami, reconnais que tu es un pécheur, une pécheresse, on l'est tous, la parole de Dieu nous le dit. Et repens-toi. La repentance, c'est un changement de cœur à l'égard du péché qui fait qu'on veut absolument s'en détourner. Alors, repens-toi et demande à Jésus de te sauver. Demande à Jésus de te donner la vie éternelle. C'est pour toi aussi qu'il est mort sur la croix, il y a 2000 ans. Il a pensé à toi. Il savait que tu viendrais sur cette terre et que tu serais un pécheur, une pécheresse perdue. Et il a payé ta dette en entier. Juste avant de mourir sur cette croix, il a dit « Tout est accompli ». Et ensuite, le 3e jour, il est revenu à la vie. Et maintenant, il se tient à la porte de ton cœur et il frappe tout doucement. Il ne te forcera pas à ouvrir la porte. Veux-tu l'ouvrir aujourd'hui? Laisse entrer ce Jésus merveilleux.
Caro, nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir?
C'est justement comme ce que tu viens de dire, Réjean, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement, en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer, et ensuite, on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne, comme toi, Réjean. La dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épatée. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé. Et en même temps, ton sens de l'humour qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors, c'est ça un merveilleux déjeuner de l'espoir. Ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit.
Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners?
Vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647 ou via courriel.
À www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, province de Québec, le G1G 6P2. Au revoir.
Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.